Bonjour chers auditeurs, au micro Ilan Rosanquier qui a le plaisir de vous présenter un nouveau numéro de Chronique pour la paix. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Marc Lefebvre qui est franco-israélien, membre du parti israélien Les Démocrates et par ailleurs expert en sûreté nucléaire. Bonjour Marc Lefebvre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et d'avoir répondu à notre invitation. Je vais commencer notre entretien par le sujet qui fait la une de la presse israélienne ce matin même. Les médias, en effet, commentent largement l'information, non officielle encore, selon laquelle Benjamin Netanyahou aurait l'intention d'intensifier la guerre à Gaza et de réoccuper totalement la bande de Gaza. Information non officielle parce qu'il doit y avoir aujourd'hui même à 19h, heure israélienne, une rencontre restreinte de Benjamin Netanyahou avec un certain nombre de membres du gouvernement, pas la totalité. Et une réunion de cabinet se tiendra d'ici quelques jours pour valider les orientations qui seront arrêtées au cours de cette réunion et correspondant aux indications donc, que le gouvernement a l'intention de transmettre à l'armée. On peut se poser la question, Marc Lefebvre, que penser de cet élargissement des opérations qui va à l'encontre du souhait des familles des otages, souhait qu'elles ont exprimé suite à la vision, entre autres, des vidéos atroces qui ont été projetées récemment par le Hamas et le djihad islamique, mais aussi à l'encontre des souhaits et des analyses de l'armée elle-même.
Oui, effectivement, le pays aujourd'hui est dans une grande perplexité et dans une grande inquiétude. Non seulement les familles d'otages qui appréhendent une décision, une orientation qui quelque part amènerait à sacrifier ces otages, pour des objectifs absolument incertains et probablement inatteignables, puisque la campagne militaire qui a été déclenchée il y a quelques mois n'a atteint aucun des objectifs qui avaient été affichés. D'autre part, l'opinion publique, à juste titre, s'interroge sur les divergences très explicites entre l'état-major et le gouvernement actuel, puisque l'état-major, jusqu'à maintenant, a toujours affiché que sa priorité était de libérer les otages, alors que de plus en plus, le gouvernement met les otages à la trappe, et en fonction d'objectifs qui sont, de toute façon, inatteignables. Donc, on est dans une situation qui, aujourd'hui, est dramatique. Dramatique pour la sécurité à long terme de l'État d'Israël, et dramatique aussi par rapport à la division du pays. On a un gouvernement où la plupart des ministres n'ont aucun enfant qui sert dans l'armée et qui n'arrêtent pas de demander de plus en plus de sacrifices à la partie de la population qui, elle, accepte d'envoyer ses enfants faire leur devoir de défense du pays. Donc on est dans un contexte de division profonde du pays et de désarroi.
Mais est-ce que cette décision, si elle est prise, on peut supposer qu'elle sera prise avec l'aval de Donald Trump? On voit mal Israël se lancer dans une nouvelle escalade sans cette caution. Ne risque pas d'accentuer encore le tsunami international à l'encontre d'Israël, ce tsunami diplomatique concernant la reconnaissance de la Palestine et surtout la mise d'Israël au banc de la Société des Nations avec des conséquences catastrophiques en matière de coopération économique, en matière scientifique, avec éventuellement l'exclusion ou la mise à l'écart d'Israël du programme Horizon de l'Union européenne, qui est le programme de recherche le plus important au monde actuellement, et dont la contribution et le bénéfice qu'en reçoit Israël est très important.
On est face par rapport à la provocation du Hamas, par rapport à ces projections de vidéos des otages affamés, ces projections scandaleuses, le Hamas, je ne sais pas s'ils se sont tirés une balle dans le pied ou si c'est tout à fait leur stratégie. En définitive, on est face maintenant à une fuite en avant. À une fuite en avant extrêmement dangereuse. Est-ce qu'il y a eu un feu vert de Donald Trump? C'est ce que prétend le bureau du Premier ministre. Le bureau du Premier ministre, avec tous ses membres financés ou corrompus par le Qatar, on ne sait pas quel est le niveau de fiabilité de ce bureau du Premier ministre. On ne sait pas exactement quelles sont les positions de Trump qui fait référence à la situation à Gaza en faisant référence à ce qu'il voit à la télévision. Donc on est face quand même face à des situations tragiques et des situations d'une importance stratégique très importante. On est face à des dirigeants dont on peut raisonnablement se poser la question sur leur fiabilité et sur leur perspicacité. Et cette fuite en avant, de toute façon, elle est dramatique, puisque effectivement, elle va amener à une aggravation encore de la situation humanitaire à Gaza. Elle va amener à des pertes encore de soldats pour des objectifs inatteignables, et elle va amener, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une profonde division du pays. Alors, c'est peut-être la stratégie du Hamas, effectivement. Si la stratégie du Hamas, c'est de diviser et de déchirer le pays, ils réussissent. Alors, la question qu'on doit se poser maintenant, c'est comment faire en sorte que ce pays se réunisse se renforce par une unité vers des perspectives politiques, vers des perspectives de sortie du conflit. Et donc la question que chaque responsable doit se poser, c'est comment faire en sorte que ce pays de nouveau soit unifié vers des objectifs qui sont raisonnables, atteignables et qui sont au profit de l'État d'Israël.
Alors, on peut se poser la question si c'est effectivement l'unification qui doit être recherchée. Est-ce que l'unification entre toutes les secteurs...
L'unité n'est pas l'unification, c'est pas pareil.
Voilà, c'est un petit peu ce que j'allais dire. C'est dans un premier temps, avant de rechercher l'unité, c'est de la nécessité d'opérer des choix qui s'imposent pour pouvoir effectivement envisager une sortie de cette...
Le pays attend des élections. Le pays attend une commission d'enquête d'État sur ce qui s'est passé le 7 octobre et sur les responsabilités. Le pays, les sondages le prouvent, et les sondages sont quand même relativement fiables et cohérents, le pays demande une nouvelle direction politique au pays, une direction de gens responsables, qui se sentent responsables vis-à-vis du destin du pays et non pas sur leurs intérêts personnels ou leurs intérêts partisans. Donc quand je parle d'unité, c'est simplement une approche où des dirigeants politiques prennent en compte la majorité des intérêts de la population, les intérêts de la majorité de la population, et ne gouvernent pas et ne nous emmènent pas dans des aventures en fonction d'une dictature de quelques minorités aussi bruyantes et aussi agissantes soient-elles, comme les extrémistes messianiques Ben-Gvir et Smotrich, ou comme les partis Haridim, qui ne sont là que pour leurs intérêts personnels et qui n'en ont rien à faire des intérêts du pays.
Alors, il semble que là, ces partis-là sont en train de marquer des points, puisque d'un côté, pour reprendre ceux que vous avez cités, que ce soit Ben-Gvir et Smotrich, on voit que la situation dans les territoires occupés en Cisjordanie se dégrade, et avec la multiplication des agressions de colons, l'ambassadeur d'Israël... Agression par des colons, oui. C'est ce que je voulais dire, excusez-moi. Agression par des colons de Palestiniens, agression que l'ambassadeur d'Israël a qualifié d'acte criminel à Radio Shalom il y a peu. Donc on peut se demander s'il n'y a pas une espèce de bombe à retardement qui est en train de se mettre en place en Cisjordanie. Et les Haredim, avec le remplacement du président de la commission de la défense à la Knesset, Yuri Edelstein, qui vient d'être mis de côté et être remplacé par Boris Bismuth, pour faire passer une loi qui permettra justement l'exemption de ces Haridim du service militaire au moment où, comme vous l'avez très justement mentionné, le besoin de militaires est de plus en plus fort.
Alors, je ne reviendrai pas sur ce que vous avez dit, qui est essentiel. Simplement, en ce qui concerne la situation en Cisjordanie, je voudrais mentionner quelque chose qui est peu mentionné en général dans les médias, c'est l'action des forces de sécurité de l'autorité palestinienne. Pendant la guerre des 12 jours contre l'Iran, l'autorité palestinienne, par ses services de sécurité, a empêché des incursions et des actions menées par des groupes terroristes à la solde de l'Iran. Aujourd'hui, si la situation en Jordanie, malgré les agressions et les provocations permanentes des jeunes des collines, comme on les appelle, contre les Palestiniens, si la situation ne dégénère pas, c'est à cause, il faut le dire, de l'esprit de responsabilité, de la politique de responsabilité de l'autorité palestinienne qui a intérêt à ce que la situation ne dégénère pas en Cisjordanie, malgré les provocations des colons extrémistes et malgré les actions du Hamas. C'est apporté au crédit de l'autorité palestinienne et je pense que ce n'est pas assez dit. L'autorité palestinienne n'en a récolté aucun fruit politique aujourd'hui, mais je crois qu'il ne faut pas l'oublier.
Alors, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, et là, on passe à un autre volet. Vous avez mentionné effectivement l'absence de vision politique pour sortir de la crise. La seule sortie, la seule solution qui est envisagée par le gouvernement actuel israélien, c'est une escalade militaire, c'est une sortie militaire. Est-ce que l'intérêt d'une sortie politique ne justifie pas d'une certaine façon la politique actuelle d'un certain nombre d'États, dont la France, visant à la reconnaissance de la Palestine, qui permet de remettre une solution politique à l'ordre du jour, quelles que soient les discussions qu'il peut y avoir autour, et qui est quelque part porteuse d'espoir, parce que aussi bien les Israéliens, bien entendu, mais y compris les Palestiniens, ont besoin de pouvoir imaginer un futur et un avenir qui ne soit pas celui catastrophique et sanglant qui est le leur actuellement.
Alors, l'annonce de l'intention de la France faite par le président Macron de reconnaître l'État de Palestine en décembre à l'ONU a été mal perçue en Israël et a été quelque part contre-productive dans sa forme. Peut-être pas dans son fond, mais en tout cas dans sa forme, elle a été contre-productive. Depuis, d'autres pays européens se sont joints à cette initiative, mais avec des formes différentes, des formes conditionnelles, c'est-à-dire demandant au gouvernement israélien de prononcer un cessez-le-feu à Gaza, de faire en sorte que les otages soient libérés pour que la situation se détende et donc montrer des preuves de bonne volonté. Et sinon en réponse à ce manque de bonne volonté, alors à ce moment-là, il y aura une reconnaissance de l'État de Palestine dans les conditions d'incertitude actuelles. Donc l'ensemble des pays européens qui se sont rejoints, qui ont joint cette initiative, l'ont fait d'une autre façon, d'une façon, je pense, plus habile et plus intelligente que celle qu'a faite le président Macron, dont, de toute façon, la crédibilité en Israël, quand on sait qu'il s'est abstenu de participer à la grande manifestation nationale en France pour défendre la République et contre l'antisémitisme, manifestation appelée par les présidents des deux chambres, le fait qu'il se soit abstenu de participer a été considéré en Israël comme étant particulièrement problématique et a complètement dévalorisé sa position.
Oui, mais là, il y a aussi une question de présentation, parce que d'un autre côté, on ne peut pas oublier que c'est la France, le premier pays qui a organisé une commémoration nationale concernant les otages, que la France a fait, et le président Macron a fait plus en matière de reconnaissance et d'empathie à l'égard des otages que le gouvernement israélien l'a fait. Et que, s'agissant donc de l'initiative qui a été prise, le mouvement d'entraînement qui a eu lieu de la part des différents pays européens et non européens envers la reconnaissance de la Palestine, y compris la position britannique qui est effectivement conditionnelle, est quand même le résultat du processus qui a été lancé par le président Macron, avec deux éléments importants qui sont passés sous silence. Un qui rejoint ce que vous avez dit s'agissant de l'autorité palestinienne dans les territoires occupés. L'autorité palestinienne a quand même, ça lui a pris du temps certes, mais a quand même condamné les événements, l'attaque meurtrière, le pogrom du 7 octobre, en traitant le Hamas de fils de chien, en acceptant que le Hamas soit mis de côté dans le cadre de l'après, du jour d'après, et dans le prolongement également de l'initiative de Macron, la déclaration de l'acceptation par la Ligue arabe pour la première fois, également de la mise à l'écart du Hamas. C'est-à-dire qu'il y a quand même des éléments qui étaient réclamés jusqu'à présent par une partie de l'opinion israélienne en disant « le jour où ils le feront, on verra ». Et maintenant, ils le font, du moins ils le disent, ils ne l'ont pas encore fait. On passe ces avancées totalement sous silence du côté israélien.
Alors, Ilan, je dois vous dire quand même que, vous le savez très bien, l'opinion israélienne est des fois s'emporte, mais est la plupart du temps perspicace et exigeante. Et ce qu'on exige d'un pays comme la France, c'est de la cohérence. De la cohérence dans sa politique. Or, actuellement, si des aspects que vous décrivez et qu'on peut concevoir comme étant positifs des initiatives françaises sont systématiquement, le plus souvent, malheureusement, contredits par d'autres aspects qui vont dans l'autre sens. Je ne citerai que ce qui se passe avec les autorisations données par le consulat général de France à Jérusalem à des Gazaouis de venir étudier en France, et on s'aperçoit ensuite que ce sont des antisémites et des fanatiques de Hitler. Donc, quand la France, par toutes ses institutions, par tous ses ministères, sera cohérente, elle aura plus de poids.
Oui, sauf que là, on met sur le même plan des éléments qui ne sont pas du même...
Mais l'opinion publique israélienne est très sensible. Elle est actuellement dans une situation de tension permanente. Chaque famille est tendue à cause de ce qui se passe, à cause des dommages causés par les bombardements iraniens, par les localités à reconstruire du nord et du sud, par la pression sur la mobilisation militaire. Donc la population en Israël est fatiguée, tendue et nerveuse. Et donc, par rapport à ça, on a besoin d'avoir en face de nous des puissances qui soient cohérentes dans leurs actions, dans leurs initiatives et dans leurs propos. Je crois que c'est le minimum qu'on peut leur demander. Ce n'est pas le cas de Trump, alors que les pays européens se comportent de façon cohérente et conséquente et responsable, ce serait le mieux pour tout le monde.
Serait effectivement une situation idéale. Ceci étant, ce type de cohérence est quasiment impossible et aucun pays ne peut actuellement s'en prévaloir, à commencer par, malheureusement, par ce qui se passe en Israël. On voit bien, et on terminera notre entretien sur cet aspect-là, que parallèlement, au moment où la guerre se continue, où les besoins du pays vont croissant, y compris en matière de reconstruction du pays, que ce soit les localités du Nord, les localités du Sud, où les crédits annoncés ne sont pas...
ne sont pas mis en place.
On s'aperçoit que finalement, le gouvernement ne renonce pas à ces projets de coup d'État judiciaire qui divisent profondément le pays à un moment où on ne peut entendre unité, 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 et aucune mesure favorisant cette unité de ressouder la population n'est actuellement promue.
Je suis tout à fait d'accord. Ce qui est tragique, c'est que ce qu'on constate, c'est que ces divisions, ces déchirements du pays, après tout, on est passé, il y a deux jours, c'était Tisha B'Av, et donc on n'en a pas tiré les enseignements. On n'a pas tiré les enseignements des déchirements internes qui ont amené aux catastrophes dans le passé. Donc faisons en sorte que nous en tirions les leçons pour le futur. Et il faut que la direction que le pays est en droit d'attendre soit au profit des intérêts de la majorité de la population et pas au profit des intérêts de quelques minorités extrémistes.
Eh bien, nous terminerons notre entretien sur ces paroles de raison en espérant qu'elles trouveront une oreille attentive et des gens qui seront prêts à les prendre en considération et à les traduire sur le terrain. Il nous reste à espérer que, effectivement, les prochaines nouvelles aillent dans ce sens-là et nous aurons l'occasion d'en reparler au cours de nos prochaines émissions. Il me reste à vous remercier d'avoir accepté notre invitation et de dire aux auditeurs à la prochaine émission dans 2 semaines, en remerciant Marianne à la technique pour avoir assuré le bon déroulement de cet entretien. Merci à vous et à notre prochaine émission. Au revoir Marc Lefebvre.
Merci.